Bonjour et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! L'invité d'aujourd'hui a fait une étude de cas d'une durée de 1 an et demi auprès d'un immigrant au Canada dans le cadre de sa maîtrise. Elle vient donc nous exposer sa vision de la transition internationale en lien avec l'ergothérapie. On discute dans cette conversation-là des changements de routine, du rôle du nouvel arrivant dans notre société, des loisirs de celui-ci, de la nourriture du pays d'accueil, ainsi que de sa transformation. Au surplus, son conjoint, le conjoint de Rachel Boucher, est d'origine marocaine, donc il lui offre un deuxième exemple à suivre de près pour un peu plus de perspective. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, on va avoir une belle conversation avec Rachel Boucher. Le lien entre Rachel et moi s'est fait alors que on avait déjà un petit peu parlé avant, mais à ce moment-là, je sortais la formation PROTI, donc le processus étape par étape pour optimiser la réussite, la transition internationale. Et Rachel m'a contactée parce que, en fait, elle était super excitée. C'était en lien avec un travail qu'elle avait fait, une étude de cas qu'elle avait fait sur 1 an et demi à sa maîtrise. Alors, on a commencé à discuter de ce sujet-là et je l'ai invitée sur le podcast pour qu'elle vienne nous parler de son étude qui fait un lien entre la transition internationale et l'ergothérapie qui est son domaine d'étude. Alors, d'abord, bienvenue Rachel sur le podcast.
Oui, merci. Merci à toi de m'accueillir.
Je suis super contente que tu sois là, puis j'ai vraiment hâte de découvrir le contenu de ton étude de cas que tu as fait. C'était à quel moment que tu as commencé à faire cette étude-là?
Oui, dans le fond, si je me permets de déjà un peu de corriger, je suis présentement dans le fond à la maîtrise, je suis graduée en décembre. Mais heureusement, c'est un gros bien pour moi, mais j'ai terminé de faire mon étude, je dirais au courant de janvier, j'avais fait mon entrevue. Dans le fond, j'ai fini ma rédaction au mois de mars. Puis là, j'étais en attente justement de mes corrections.
Super. Donc, c'est ça, parce que tu me disais tout à l'heure justement que tu venais de recevoir là, des corrections par rapport à ça. Tu as commencé à étudier ce cas-là à quel moment exactement?
Dans le fond, mon participant est arrivé en 2013, puis dans le fond, ce fut juste par une entrevue de 2 heures qu'on a fait tout le parcours de sa vie, puis aussi m'a donné des documents pour expliquer davantage sa transition, son immigration ici au Québec.
Super. Donc, on va parler de l'approche que, en fait, de ce que tu as trouvé là-dedans, mais avant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton expérience à toi, parce que je sais que tu n'es pas expatriée, que tu, d'une certaine façon, flirtes un peu avec l'expatriation. Raconte-nous un peu, c'est quoi ton histoire en lien avec l'expatriation ou peut-être une future expatriation?
Excellent. Grosso modo, moi, à la base, en 2015 ou 2016, j'ai fait une rencontre sur le web avec mon conjoint, qui est présentement rendu mon conjoint. Lui habite, dans le fond, au Maroc. Moi, j'habitais à Saint-Étienne-des-Grès dans le temps, donc dans la région de la Mauricie. Puis, on a discuté pendant quand même 2-3 années jusqu'à temps qu'on décide, pour lui venir ici en tant que visiteur touristique, c'était vraiment trop compliqué. Donc, sur le coup, on a décidé, on a pris la décision que moi, j'allais le voir au Maroc durant une période d'un mois en 2018. Donc, j'ai quitté seule pour aller le voir, pour qu'on fasse enfin connaissance en personne. Donc, j'ai passé un mois là-bas. Je suis revenue en début juin, puis une semaine après, finalement, j'ai décidé de retourner là-bas pour une période de 3 mois et demi, si ma mémoire est bonne. Donc, après, je suis retournée 3 semaines à Noël. Puis l'été dernier, j'ai passé 4 mois aussi là-bas. Dans sa famille, je vivais au rythme des Marocains. Entre-temps, on avait commencé la démarche pour que lui vienne s'installer ici. Puis c'est toujours bien compliqué, ces démarches-là, avec l'immigration. Puis, on a eu la bonne nouvelle en octobre que Moody pouvait venir me rejoindre, dans le fond, ici, au Québec. Désolée. Donc, il est arrivé le 31 octobre. Donc, ça nous a comme empêché de... Ben, ça nous a... Comment je pourrais dire? Au début, si lui, notre démarche ne fonctionnait pas, j'allais le rejoindre là-bas au Maroc une fois diplômé. Sauf que là, lui est venu. Mais ça reste dans nos projets, le futur, de soit aller retourner au Maroc ou à tout autre pays où est-ce qu'on pourrait s'expatrier, parce que les deux, on a vraiment envie de vivre aussi ailleurs puis d'être un peu plus nomade.
C'est ça. Donc là, peut-être toi, tu as envie d'aller là-bas, lui, il a envie de venir chez vous. Alors peut-être que finalement, ça va venir ailleurs.
Oui, exact.
OK. Donc là, l'autre point, c'est que tu étudies l'ergothérapie. Puis ben, d'abord, définis-nous un peu là, ton champ d'études et d'expertise.
Oui, ben, dans le fond, même après comme 5 ans d'études, même les grands ergothérapeutes ont de la difficulté à mettre une définition claire puis qui ne change pas. Parce que dans le fond, à la base, on est les experts en habilitation de l'occupation. Donc, autrement, c'est qu'on accompagne les personnes, on a vraiment une vision holistique, donc on considère la personne comme un tout dans un environnement, puis qui réalise des activités, des occupations. Puis peu importe que tu aies un diagnostic physique, mental ou aucun diagnostic, mais que tu n'es plus capable de faire, de vaquer à tes activités quotidiennes, ben, un ergo peut venir et un ergothérapeute peut venir puis soutenir à t'aider à t'améliorer puis à même à t'adapter dans le fond à ton environnement pour faire tes occupations. Donc, si je peux donner un exemple plus concret, là, j'aime bien prendre justement l'exemple d'un mécanicien qui perd l'usage, par exemple, d'une main, mais qui veut continuer à être mécanicien, ben, l'ergothérapeute va l'accompagner pour soit adapter son environnement dans son garage ou lui trouver des moyens pour que lui soit capable de réaliser encore son occupation, son travail de garagiste, de mécanicien, mais avec ces complications-là, avec cette condition-là.
Donc, on parle d'adaptation, là. C'est ça, ouais. D'un côté ou de l'autre, c'est ça. Il y a un exercice de stretch, d'étirement à faire pour que deux morceaux fitent ensemble, là. Ouais. En bon français.
Je veux dire vraiment plus s'adapter, qu'on accompagne la personne à s'adapter à une nouvelle réalité, à un nouveau, à des changements de rôle, d'identité, de routine. Aussitôt que ça touche une personne qui doit changer une façon de faire, ben on est là pour ça, pour les accompagner.
Puis là, tu as décidé de faire ton étude autour de la transition internationale. Donc, comment t'es venue cette idée-là?
Bien, effectivement, là, je ne vous cacherai pas que mon parcours personnel avec mon conjoint qui vient d'ailleurs, mais déjà à la base, je suis une personne très curieuse. Puis, encore une fois, c'est la maîtrise, ça nous permet d'élargir nos connaissances, puis on doit aller dans un sens où est-ce que réfléchir l'ergo, où est-ce qu'il n'est pas encore vraiment existant. Puis, c'était vraiment comme un novateur parce que, dans le fond, une personne qui émigre, même si présentement, on n'a pas de clinique spécialisée, par exemple, avec des personnes immigrantes ou ces choses-là, ben c'est tout ce qu'un ergo peut faire, soit adapter une personne à une nouvelle réalité, à se changer au niveau des rôles, rôle personnel, rôles sociaux, des nouvelles routines, se redéfinir en tant que personne dans un nouvel environnement. Donc, c'est tout ce qu'une personne peut avoir besoin, c'est une ergo dans ce contexte-là. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à ça, pour savoir comprendre les défis, les enjeux, mais surtout comment les surpasser, comment moi je peux m'outiller en tant qu'ergothérapeute pour accompagner une personne qui vit ces changements-là.
Super. Donc là, tu me disais que tu avais regardé ce qu'en était des changements de routine, de rôle, de loisirs, de nourriture. Dans le fond, tu es allé faire le tour un peu de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire sur le contenu, de quoi ça a l'air, à quoi ça ressemble, quel genre de résultats tu as noté?
Oui, bien, dans le fond, j'avais pris un modèle qui ressemble un peu au modèle que tu as utilisé, là, dans le fond, qui parle de la lune de miel, du choc culturel, de l'adaptation, puis comme une espèce de plateau qui est la maturité. Dans le fond, moi, j'ai fait référence à un participant qui aujourd'hui est âgé de 30 ans. Lui est arrivé au Canada en 2013, donc ça fait quand même 7 ans qu'il est arrivé. Puis au début, je me questionnais, est-ce que je prends justement, par exemple, mon conjoint qui vient d'arriver et je le compare à une personne qui est adaptée pour voir la différence entre les deux? Mais j'ai opté pour prendre une personne qui avait vécu tous les processus, qui pouvait justement avoir un regard critique sur sa transition, être capable d'émettre lui-même des recommandations, dire ben voici ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'a nuit, ou qu'est-ce que je peux recommander à des personnes qui sont sur le point de faire une immigration, des expatriés.
OK, super.
Dans le fond, je vais essayer de vous faire ça clair, parce que dans le fond, les résultats que j'ai obtenus, c'était surtout au niveau de son récit de vie. Donc, j'ai été documenter comment lui vivait avant de venir, qu'est-ce qui l'a poussé aussi à prendre une décision, parce que prendre une décision pour s'expatrier, ça a une énorme influence sur le résultat. Parce que, par exemple, comme lui, c'était clair et certain qu'après son expatriation d'Algérie à venir ici, bien qu'il n'allait clairement pas se réinstaller officiellement pour continuer sa vie en Algérie. Il me dit, si j'étais partie de là-bas en me disant, bien, c'est juste une option, je vais voir à quoi ça ressemble, puis si ça ne marche pas, bien, je retourne. Mais il dit clairement qu'au premier défi rencontré, bien, je serais déjà revenue à la maison en Algérie dans mon soulier de confort. Donc, il me parlait de justement comment lui organisait ses journées, c'était quoi ses routines, c'était quoi aussi l'influence de son environnement sur sa décision, mais aussi sur son adaptation. Parce que dans le fond, une fois arrivé ici au Québec, c'est sûr que c'était là le point majeur qui était le plus difficile ou le plus confrontant, on ne se le cachera pas. Quitte que lui, dis-moi, ce qui me stressait beaucoup, c'était au niveau de la langue. Puis aussi au niveau responsabilité, effectivement. Là-bas, en Algérie, on ne généralise pas, mais comme lui mentionnait, il dit c'est souvent, c'est par exemple la mère qui fait beaucoup, beaucoup dans la maison, l'entretien, les repas, ces choses-là. Fait qu'il dit déjà là, en arrivant ici, dans un appartement, je devais être capable de me préparer des repas, être capable d'entretenir mon appartement, être capable de subvenir à mes besoins. Puis aussi d'être capable de m'adapter à la nouvelle culture puis aux nouvelles tâches que j'allais avoir comme en tant qu'étudiant ou ces choses-là. Donc, il mentionnait que à son arrivée ici, qu'est-ce qui a été le plus confrontant, c'était surtout le sentiment de vide qu'on peut ressentir dès le départ parce que, dans le fond, tu arrives ici, tu sais à peu près où est-ce que tu t'en vas, tu connais pas nécessairement la ville, tu sais quelle tâche métier à l'étude, qu'est-ce que tu vas faire, mais en dehors de ça, si tu n'as pas d'amis concrètement ici, bien c'est plus difficile. Fait que, tu sais, tu essaies de te raccrocher à une activité en particulier, mais lui, c'était surtout surinvesti dans les études, puis dans le sport, mais tu sais, une fois que tu as fait tes études, que tu as fait ton 2 heures de sport par jour, bien il reste une période qui est vide. C'est là, nous, en tant qu'ergo, aussi, je me suis questionnée après comment on peut outiller les personnes à gérer cette période de vide-là ou ces choses-là.
Qu'est-ce que tu as trouvé par rapport à ça?
Ça, c'est une bonne question. Parce que, dans le fond, tu sais, on s'entend que toute personne est unique. Tout le monde a chacun leur préférence, leur loisir qu'ils préfèrent faire. Mais comme tu dis, c'est le rythme de vie ici et ailleurs est tout le temps différent. Dans ce sens-là, je pense que lui, il ne s'attendait pas à avoir un vide occupationnel, comme qu'on appelle, autant intense. Donc, déjà là, à la base, si on prend des personnes qui vont s'expatrier, puis on les documente, on les sensibilise à ça, parce que je pense qu'au final, il y a beaucoup, ça va passer beaucoup par l'éducation, la prévention, promotion à cette transition-là qu'on va être capable de s'outiller en tant qu'expatrié. Savoir vraiment, comme quitte à faire une liste d'activités, loisirs qui fait du bien ou que, j'allais dire au Maroc, mais dans le pays où est-ce que maternel d'où tu viens, quelle activité je faisais pour me sentir bien? Est-ce que je peux les faire ici dans mon nouvel environnement? Sinon, comment je peux l'adapter, la modifier pour être capable de le faire et que ça me fasse autant du bien et puis que ça module aussi mon temps? Moi, je pense justement à mon conjoint qui, lui, au Maroc, puis même en Algérie, allait toujours dans les cafés pour voir les matchs de soccer. Ben, ici, les cafés Morgan, les cafés Tim Hortons, c'est plutôt au niveau social. Ben, comment ils peuvent faire? Ben, je peux profiter d'une ambiance similaire puis revoir comme les mêmes effets. Donc, c'est vraiment se questionner et puis nous-mêmes essayer de trouver une stratégie, comment l'adapter à notre nouvel environnement.
OK.
En ce sens-là, effectivement, là, donc c'est... j'ai perdu mon idée, pardon. Mais effectivement, là, c'était vraiment dans ce sens-là. Je trouve que c'est grosso modo là, ce qui en ressort énormément de mon essai, c'est vraiment de, d'éduquer, de sensibiliser les gens à ce qu'ils vont vivre. Ou qu'est-ce que pas... C'est sûr, comme je mentionne, c'est vraiment du cas par cas. C'est un phénomène qui est complexe, qui est temporel, qui est personnel. Puis pour arriver à un moment qu'on se dit qu'on est vraiment fonctionnel, ça peut aller jusqu'à un 10 ans qu'on se dit comme je suis à 98 % bien adapté dans un pays. Puis oui, il y a l'aspect de l'occupation, mais ce qui est plus dur, c'est aussi d'être loin de sa famille, c'est loin d'être, de ses traditions, puis ces choses-là. Puis on a beau bien avoir la technologie, puis heureusement, présentement, on l'a pour... garder ces contacts-là, mais il reste un soutien émotionnel, un soutien social, physique qui en manque ou qui n'est pas là.
Ouais.
C'est vrai que l'identité personnelle, l'identité culturelle, l'identité nationale va vraiment aider à la personne à passer aussi au travers des difficultés.
Qu'est-ce que tu veux dire par l'identité nationale? Tu sais, c'est-à-dire qu'en quoi ça peut l'aider, cette identité-là?
Oui, ben, dans le fond... notre identité, exemple, on arrive qu'on a une, comment je pourrais dire, exemple, comme moi, le participant est algérien, ben, par exemple, je vais te donner un exemple concret, ben, le rôle, par exemple, de l'homme dans, au cœur d'une famille. Ben, clairement que ici, par exemple, au Québec, c'est pas encore généralisé, mais que, ben, ça, lui, ça le dérange en tant que comme. Il a la responsabilité de subvenir aux besoins d'une famille complète, donc avoir un bon travail, etc. Puis après avoir une famille, puis subvenir à leurs besoins. Comme tu dis, d'ici, une Québécoise pure laine, que tu arrives puis tu lui dis, bon, mes attentes dans une relation, bien, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, si tu travailles un temps partiel ou pas du tout pour t'occuper du côté familial, si ça te vient, c'est parfait. Mais c'est ça, d'ici, ton identité n'est pas assez forte de avant, ben tu vas te déboussoler. Tu vas arriver ici puis tu vas être vraiment déboussolé. Par exemple, au niveau aussi de la religion, si tu es confiant envers toi-même, tu es conscient de tes capacités personnelles, tes capacités aussi d'analyse sur toi-même, parce que comme il dit, si tu arrives puis tu t'expatries, puis que tu n'es pas prêt à faire du travail sur toi-même, ben il dit que tu es mal barré.
Ouais.
Parce que tu es toujours challengé par ton nouvel environnement, par une nouvelle situation qui est inconnue pour toi. Donc, si tu ne prends pas le temps de t'asseoir et de dire « OK, qui je suis avant? Qui j'anticipe devenir? Puis de quelle façon je vais être capable de m'emmener à là? » Si tu ne le fais pas, ben c'est voué un peu à l'échec. C'est ça, comme si on pense, par exemple, à Montréal, là oui, effectivement, la ville est beaucoup plus multiculturelle, mais ça comporte ses enjeux. Parce que tu sais, tu pars, par exemple, de l'Algérie, pas pour retourner à une autre mini-Algérie où est-ce que tu vas continuer à vivre, mais de la même façon, mais ailleurs. T'sais, par exemple, lui est venu dans une municipalité plus petite, comme par exemple à Trois-Rivières ou en Mauricie. Il dit, oui, c'est beaucoup plus... ça te sort de ta zone de confort, mais ça te pousse à être obligé de découvrir, d'être plus ouvert d'esprit, d'aller vers l'autre, de comprendre la réalité aussi d'ici pour être capable de t'adapter.
Oui, mais contrairement à la vie en ville aussi, là, où c'est plus individualiste, puis on ne se parle pas nécessairement.
Exact. C'est ce qu'il dit. Dis-moi, par exemple, si je parle avec de mes amis qui habitent, par exemple, à Montréal, qui est multiculturelle, qui est une ville plus multiculturelle, dis, son français est la même chose qu'à son départ. Les emplois, bien, encore plus difficiles parce qu'au final, il se tient toujours avec la même ethnie. Mais au contraire, comme qu'il dit, c'est bon de rester en contact avec des personnes qui vivent une situation similaire parce que ça te donne des trucs, ça te donne un partage de connaissances, ça te dit, bien, exemple, dans une situation-là, ben moi, je l'ai vécu comme ça, j'ai fait telle chose, mais ben, ça t'outille de stratégie. Mais en même temps, il dit, ça peut juste aussi te nuire si tu restes toujours dans le même pattern de avant partir. Tout dépend aussi de la raison pourquoi tu quittes. Mais c'est pour ça qu'il disait, ben moi, si j'avais le choix à refaire, c'est clairement, je retournerais dans une ville qui est peut-être un peu plus petite, mais qui va me pousser à m'adapter, à sortir de ma zone de confort, puis vraiment faire l'auto-analyse de moi-même pour arriver à m'adapter.
Mais écoute, ça, là, pour moi, c'est super clair. En plus, ça me fait penser à ce que je vais te raconter, ce que je vais vous raconter. Mais quand je suis partie un an en famille d'accueil en Italie, c'était avec un organisme d'échange d'étudiants. Mais je m'imaginais, comme jeune fille, là, aller à Milan, à Rome, à Bologne. J'avais une vision de grandeur de ce genre-là. Là. J'allais être dans une grande ville, etc. Finalement, j'ai reçu les informations sur ma famille d'accueil. Puis, c'était dans un tout petit village dans le sud de l'Italie. Puis, j'ai été déçue sur le coup parce que ben parce qu'on comprend pourquoi, là. J'allais pas aller nécessairement découvrir tout ce que les grandes villes ont, tout ce qu'on voit dans les guides touristiques, etc. Mais finalement, je ne changerais cette expérience-là pour rien au monde parce que j'ai été en contact direct avec la vraie vie des Italiens, la vraie vie de village, la vraie nourriture locale, avec, c'est ça. Des fois, j'avais l'impression qu'ils vivaient plusieurs années en arrière, mais parce que ils n'avaient pas encore de... En fait, je ne sais même pas s'ils ont des micro-ondes maintenant, mais il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de sécheuse, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait pas de... C'était des toutes petites maisons, tout était fait à la main au niveau de la nourriture. C'était vraiment plus c'est rural. Puis, tu sais, ça m'a amené une expérience, un lien. Ça a créé un lien avec les gens incroyable. Là, je suis retournée il y a 2 ans. Là.
Wow! J'adore!
Aujourd'hui, ben pas juste aujourd'hui, là, je te dirais à peu près 5 mois après avoir eu les 2 pieds dedans, là, j'aurais pas voulu rien changer. Là. La grande ville, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. T'sais, c'est pas que c'est pas bon, mais au niveau de l'intégration, c'est sûr que c'est différent. Là.
Non, effectivement. Puis souvent, on est quand même porté, parce que si on pense au portrait ici là, au Canada, bien, la majorité des personnes immigrantes qui vivent une expérience étudiant étranger ou peu importe, vont aller dans les grandes villes.
Ouais.
Mais finalement, effectivement, aller dans une petite ville, j'ai l'impression que oui, ça te déstabilise beaucoup plus, comme tu le mentionnais, mais au final, tu en ressors beaucoup plus grandi, tu t'es outillé ou tu as pu voir vraiment ce que la réalité ressemblait, puis se rendait capable d'affronter cette réalité-là en petit milieu, ben tu serais capable d'aller justement, par exemple, dans ton cas, à Milan, puis tu serais déjà comme plus sur un pied, tu comprendrais plus leur réalité d'une autre façon aussi, puis eux aussi seraient « Ah ouais, t'as habité dans telle ville, wow, genre, même nous, on n'a jamais été, s'il y a quelque chose. » Puis rendu là,
c'est exactement ça qui se passait. Puis j'avais été tellement près de la culture, la culture de souche, si on veut, italienne, que quand j'allais en Italie du Nord, on me demandait si je venais du Sud. Puis quand si j'étais une Italienne du Sud. Et quand j'étais au Sud, parce que j'avais quand même encore un accent qu'on pouvait déceler dans mon italien, on me demandait si je venais de l'Italie du Nord. C'est comme si, pour eux, j'appartenais à leur culture puis à leur pays. Tout ça, ils pensaient que j'étais italienne, mais il y avait un petit quelque chose qui était différent. T'sais. Mais ça, j'aurais pas eu ça, je pense, si j'avais été dans une grande ville en partant. Là.
Non, effectivement. Puis on dirait que j'ose te poser une question en retour. Puis, en fait, moi, j'avais eu aussi un peu la question. Par exemple, est-ce que tu penses qu'on peut s'adapter à 100% à un nouvel environnement? Est-ce que ton immigration, tu penses qu'il faut que tu te conformes à la nouvelle réalité ou en même temps, je ne sais pas comment poser ma question clairement, excuse-moi.
Oui, ben en fait, la réalité du village, il n'en demeure pas moins que pour les gens où j'étais l'étrangère. Je veux dire, même si je me suis intégrée, même si on a développé des liens hyper forts, même s'ils sont venus au Canada, même si je suis retournée en Italie, je ne sais pas, 15-20 fois, il y a toujours eu, tu sais, c'est comme un peu mon titre, là, l'étrangère. mais tu sais, ça, c'est la réalité du village, là, quand je me souviens du premier soir où j'ai pris une marche dans ce village-là, parce que c'est ça l'activité, là, de la soirée. Tout le monde fait ça, puis c'est un petit village, tout le monde se connaît, donc tu sais, t'envoies les enfants aussi dans la rue sans te préoccuper, là, de qui s'y trouve, parce que justement, je me souviens que j'entendais qui est, pendant que je marchais, parce que les gens, j'étais une face inconnue dans l'environnement. Puis, tu sais, ça, ça n'a jamais changé que j'étais la fille qui venait pas de là pour eux localement. Ensuite, tu sais, quand j'allais à trois villages plus loin, ils pensaient que je venais du nord de l'Italie, tout ça. Mais dans ce village-là, c'était clairement ça. Je n'étais pas 100% une des leurs, mais en même temps, ma mère d'accueil m'appelle sa deuxième fille, ma sœur d'accueil m'appelle sa sœur, la sœur qu'elle n'a jamais eue. Tu sais, on a développé des liens vraiment forts, mais c'est ça, je ne suis pas italienne.
Non, c'est sûr. Puis est-ce que tu avais l'impression, là on parle de l'Italie, mais je sais que tu es allée ailleurs, est-ce que tu as l'impression que la société d'accueil veut que tu te conformes, comme que tu deviennes une mini-italienne, ou le fait d'avoir la diversité culturelle était de mise, puis il encourageait ça, dans le fond?
J'avais un gros bout de chemin à faire pour être dans le respect de leur tradition, puis de leur façon de penser, puis de m'adapter à ce qu'eux faisaient. Mais ça, tu sais, je pense que quand toi, tu es prêt à offrir ça, en retour, ils sont prêts à prendre le fait que t'es pas faite sur leur moule. Puis, tu sais, ça va aussi. Donc, quand je suis arrivée, par exemple, en Italie, c'est l'exemple qu'on prend là, ma famille d'accueil était croyant, pratiquant, il allait à l'église régulièrement. Puis, au début, je le faisais aussi pour m'intégrer, pour voir, pour comprendre, pour apprendre. Mais éventuellement, c'était pas moi. Puis dans ma vie de Québécoise, j'ai pas l'habitude d'aller à l'église souvent, etc. Ben, en fait, j'avais pas l'habitude du tout. Donc, ils ont comme accepté qu'après que je me sois intéressée, puis que j'ai respecté ça, ben éventuellement, j'avais pas nécessairement l'intérêt d'y aller tout le temps. Puis c'était pas, on n'avait pas, ils ont respecté comme j'ai respecté, puis que je me suis intéressée. Là. Fait que c'est ça. Je pense que il n'y avait pas d'attente comme telle, là, mais dans la mesure où j'étais extrêmement respectueuse puis que j'étais très consciente que je vivais dans leur tradition, dans leur maison, dans leur vie, ils m'avaient fait une place énorme. Donc, c'est ça. Je pense que c'était une question de respect puis d'acceptation puis tout ça. Là.
C'est magnifique. Parce que, tu sais, moi, ça me faisait penser un peu que des fois, je trouve que les personnes immigrantes se mettent beaucoup de, justement, un peu de pression à vouloir se confondre, un peu comme à s'assimiler ou comme se mélanger à la culture d'ici, comme quasiment à 100%, mais comme que avec l'identité, justement, ethnique ou nationale. T'sais, au final, on veut, quand les personnes immigrantes viennent, ben, que l'intégration, c'est pas juste la responsabilité de la personne qui vient d'ailleurs, tu sais. L'intégration réussie va être vraiment une résultante entre l'individu, puis l'ouverture d'esprit aussi de la société d'accueil. Puis là, on le sentait vraiment qu'il y a un beau partage de culture qui doit se faire pour que la transition, l'adaptation aussi se déroule bien, puis qu'elle soit signifiante aussi pour la personne.
Absolument. Puis, tu sais, je sais pas, c'est peut-être quelque chose aussi qui est assez nord-américain. Tu sais, c'est différent de l'Afrique, de l'Europe, de d'autres continents. Et je pense que, tu sais, en Amérique du Nord, c'est aussi différent là, de ce côté-là. Tu sais, c'est pas partout pareil, cette adaptation-là. J'ai l'impression aussi que par exemple, les Italiens, ils côtoient les autres Européens aussi qui sont différents d'eux déjà, tandis qu'au Québec, donc on côtoie les immigrants ou les gens qui viennent au Québec, mais on n'a pas une vie de tous les jours nécessairement avec les Américains ou, tu sais. Je parle des États-Unis, donc c'est ça. Tu sais, c'est peut-être ça aussi. Dans le fond, c'est ce que je veux dire, c'est que peut-être que l'adaptation culturelle est différente aussi quand tu arrives au Québec versus quand tu arrives dans un autre pays.
Non, effectivement, c'est vrai. Ça, ben, comme on le sait, c'est tellement complexe, c'est tellement aussi unique à chaque endroit que tu arrives, de l'endroit où tu pars à quel endroit tu vas. Je pense que c'est vraiment un travail personnel de travailler sur soi, c'est une bonne capacité, on pourrait dire, de résilience à affronter déjà prime abord des défis. Ben, tu es déjà super bien équipé à faire, à t'expatrier à ce niveau-là.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, oui, ça dépend de ta personnalité, puis ça va dépendre de la personnalité, puis de l'ouverture des gens que tu vas côtoyer à ton arrivée. Ça, sans doute, n'importe où. Tu peux vivre une expérience excellente parce que tu es tombé dans un environnement proche de toi où les gens sont hyper ouverts. Ça peut être le contraire, alors que à un degré plus loin, ce serait complètement le contraire, le plus ou moins d'ouverture. Là. Donc, c'est ça. Il y a ça qui joue aussi, là. Les gens sur lesquels on tombe quand on arrive, les gens avec qui vont devenir nos collègues, c'est ça, le milieu dans lequel on va travailler ou étudier, tout ça fait une différence aussi. Là, je veux dire, la culture, oui, mais en même temps, c'est extrêmement global. Puis plus précis que ça, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de l'intégration, là.
Non, effectivement, c'est ça, l'environnement, c'est ce qui est aussi, j'en ressors énormément de l'adaptation, même au niveau occupationnel, c'est que, au niveau comme plus un point de vue ergo, ben c'est que l'environnement, surtout en adaptation, c'est que c'est un environnement où est-ce que tu dois, un nouvel environnement où tu dois grandir, mais qu'en même temps, tu explores ses possibilités. Puis c'est un environnement qui va te pousser à soit maintenir certaines choses que tu faisais avant ou à devoir changer certaines choses pour être capable de le faire d'une façon qui te satisfait. Mais en même temps, tu es là, tu es comme, oh, wow, un nouvel environnement. Donc, tu te développes en même temps de le découvrir. C'est aussi particulier.
Oui, puis tu sais, à travers ça, comme on le disait tantôt, il y a des cycles. On a parlé du choc culturel, la lune de miel, etc. Mais tu sais, la personne qui arrive, elle, se trouve à travers ces cycles-là, tandis que la personne qui l'accueille, si on veut, ou les personnes, l'environnement qui l'accueille, eux, ils sont dans un processus de continuité, là. Ils vivent pas ces montagnes russes-là de choc, puis d'acceptation, puis tout ça, là, ça existe pas, là. Alors là, si je reprends, par exemple, mon exemple de l'Italie, ben cette famille-là était... d'une certaine façon, éduquée à m'aider. À m'aider à passer à travers ces étapes-là. Tandis que, tu sais, quand tu arrives seule dans un nouveau pays, puis que tu n'es pas au courant de ces étapes-là, premièrement, il te manque peut-être des morceaux du casse-tête pour comprendre ce qui est en train de t'arriver, de se passer, puis ça va être quoi la suite. Mais il y a aussi l'environnement autour de toi, là. Si les gens, on a la difficulté à comprendre, là, les parce qu'après la lune de miel, il y a le choc. Mais là, le choc, c'est une période difficile. On va entendre des ils sont tous comme ça ou bon. Puis ça va finir par passer, mais pour les gens qui sont chez eux et qui reçoivent ce genre de commentaires-là, ça peut être nuisible.
C'est ça, parce qu'au final, dans la phase de choc culturel, c'est que au début, les commentaires négatifs ou les choses négatives de ton nouvel environnement, tu fais comme un peu abstraction, mais dans le vif du sujet, quand tu es vraiment dans le choc, ben tout ce que tu vois de négatif, ben de la misère à te fermer un peu les yeux dessus puis faire comme, ben c'est pas grave, c'est juste normal, ça, je vais passer au travers. T'sais, c'est tout un autre ordre d'idées, mais c'est là que, justement, la capacité un peu de résilience, la capacité de réagir toi-même par rapport à des défis, pardon, ben ça va être énormément utile pour passer la zone de choc culturel. Puis comme mon participant mentionnait, il dit, dans la période où est-ce que c'était plus difficile, effectivement, il dit, moi, je suis arrivée tout seul, tu sais, il dit, j'étais tout seul, je connaissais, oui, le français. Il dit, heureusement, je suis arrivée, puis il y avait une autre personne qui venait... je pense soit de Tunisie ou du Maroc, je ne me souviens plus. Il dit, on est arrivé à un intervalle de 4 ou 5 jours. Fait qu'il dit, on s'est vraiment comme collé ensemble, puis on a vraiment évolué. Mais il dit, c'était beaucoup plus facile parce qu'on était deux un peu à affronter en même temps les mêmes difficultés. Mais il dit, comme moi, je pensais avec mon conjoint, il dit, moi, avoir arrivé ici toute seule, puis avoir vu tous les défis, surtout cette année, là, avec la pandémie. Nous, ici, on a eu un hiver vraiment difficile. C'est arrivé jour 1, on a manqué d'électricité pendant 5 jours. Il dit avoir été tout seul, il dit, j'aurais peut-être pas été capable de surpasser mes dieux. Il dit, tu peux me partager des trucs. Il dit, je sais, si j'ai de la misère, ben j'ai une personne ressource. Puis, tu es une bonne personne parce que tu me connais, je te connais. Tu sais qu'est-ce qui va me faire du bien. C'est aussi en se connaissant énormément puis en sachant comment on réagit aux différences, aux défis, bien, qui va être vraiment pertinent d'être capable de faire face aux appréhensions puis à se rester motivé dans ce processus-là. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours de l'eau de rose, mais au final, ce qui en sort, bien, sort le positif de qu'est-ce que l'environnement, des nouvelles activités qui t'ont fait évoluer, puis aussi les conditions de vie que le nouveau milieu peut t'apporter. Ben là, t'es rendu à une étape super élevée, là, comme maturité, puis t'es arrivé à un bon niveau d'adaptation.
Ben, c'est ça. En fait, ce qu'on nous enseignait, puis que j'ai constaté ensuite, c'est de se tenir loin de nos semblables, d'une certaine façon, là, c'est-à-dire que des autres Québécois, dans mon cas, pour réellement t'intéresser puis t'intégrer de façon vraiment authentique et naturelle et pas être biaisé par les façons que les autres vivent leurs expériences, t'sais. Puis leur frustration à eux, puis leur petit, puis des fois c'est de se j'ai juste les mots en anglais qui me viennent aujourd'hui, on dirait, mais tu sais, ce pump it up, là, c'est comme, c'est ouais, pis ça, hein, ouais, pis ça en plus, pis ah, pis ta, ta, ta. Tandis que quand t'es seule à travers ça, pis que tu décides, tu sais, que tu vas passer au travers ça, pis que tu vas cheminer là-dedans, ensuite, oui, de rencontrer les autres, mais tu sais, il y a quand même un. Moi, je conseillerais d'essayer de ne pas trop coller à des gens qui vivent exactement la même chose pour cette raison-là. Pas qu'il ne faut pas le faire, mais du tout, mais pas trop se coller parce que ça peut être vraiment nuisible dans notre ouverture personnelle. On peut être influencé par la négativité de l'autre personne, puis ça peut nous tirer vers le bas aussi. Donc, tu sais, c'est de faire attention à ça. Puis je pense à quand on est arrivé au Texas, là, les trois premières années, je cherchais pas et je ne voulais pas. Je ne voulais pas de Québécois. J'étais venue ici pour m'intégrer dans cette vie-là. Puis, évidemment, que si je rencontre des Québécois, je vais leur parler, on va échanger, on va sûrement échanger nos numéros de téléphone ou nos Facebook ou peu importe. Mais je ne cherche pas cette compagnie-là parce que mon objectif pour réussir mon expatriation, c'est de développer des liens avec les gens locaux. Ensuite, au courant de l'expérience, j'ai développé des liens avec des Québécoises, puis là, on a commencé à se voir, puis à organiser des soirées, puis des soupers, puis des activités, puis tout ça. Puis, c'était vraiment cool d'avoir un lien avec ma culture, avec la maison, avec, tu sais, de se faire une poutine en gang, là, en parlant québécois, puis, tu sais, en parlant d'un humoriste qu'on a vu sur Netflix, je sais pas quoi, mais, tu sais, c'est ça, des soirées aux couleurs du Québec. Mais l'intégration est derrière depuis longtemps, là.
Oui, ça permet comme un sentiment d'appartenance avec ta culture comme d'origine ou ces choses-là. Puis effectivement, mon participant, c'est comme qu'il disait aussi. D'une certaine façon, lui, ça l'avait aidé au côté, par exemple, pour la fréquentation de la mosquée puis ces choses-là. Mais il dit, tu dois choisir un peu, si tu tiens avec du monde qui vient de la même place que toi, tu dois choisir un peu les personnes en fonction de, tu sais, comment ils réagissent, de comment ils parlent, parce que il dit, moi, je me souviens, il dit, au début, j'étais tellement stressée à postuler à mes emplois, parce qu'il dit, je faisais juste me rappeler ce que mes amis me disaient, puis étaient comme, genre, ici, le monde, quand ils voient que tu viens pas d'ici, ils vont juste voir ton nom, tu seras jamais capable de trouver un emploi, ou comme, bref, tu sais, il dit, j'étais vraiment stressée, mais il dit, pas avoir eu ces commentaires-là des personnes qui avaient eu une situation où il avait vécu cette difficulté-là, il dit, j'aurais, tu sais, comment je pourrais dire, pas que ça m'aurait pas fait un pli sur la bédaine, mais comme je dis, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, il dit, je les avais quand même un peu en pensée à cause des commentaires qu'il me disait. Fait qu'il dit, oui, ça a ses points, ses avantages, parce que ça me donnait un petit support comme social, puis je me sentais un peu chez nous. Mais au final, ça m'avait stressé sur beaucoup de choses au niveau professionnel, au niveau de l'éducation, puis ces choses-là. Fait que, comme il dit, c'est comme un. C'est un petit red flag, genre, tu sais, à faire attention.
Oui, c'est comme de choisir ses mentors, de choisir qui va nous entourer pour réussir l'expérience. Là.
Ouais,
on arrive vers la fin de l'entrevue. Je ne sais pas si tu veux nous parler, là, y a-tu d'autres conclusions, y a-tu des trucs là, à ajouter en lien avec tout ça qu'on pourrait soulever?
Parce que, en fait, moi, dans mon entrevue avec mon participant, j'avais demandé comment, si tu avais à émettre un guide ou quelque chose, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui vont vivre ou qui pensent à vivre l'expérience? Comment se préparer? Parce que moi, c'est surtout comme comment on pouvait outiller ou trouver un nouveau programme, on pourrait dire, pour accompagner les personnes qui vont faire, qui vont immigrer, qui vont s'expatrier. Comment les documenter, les éduquer, les sensibiliser à cette transition-là. Là, je vais vous citer, si je peux me le permettre, mon participant. Il disait, il y a des choses dont tu peux faire qui vont t'aider, mais il faut juste être prêt pour les défis et pour faire les efforts pour. Le plus important, il faut savoir identifier ses problèmes, ses forces, ses faiblesses. Parce que toi, si à la base, tu n'arrives pas à faire un diagnostic et savoir ce qu'il faut améliorer, tu vas être mal parti. Tu ne pourras jamais t'améliorer. Il faut vraiment te connaître et être prêt à travailler sur toi-même. Même faire des objectifs a un gros impact sur ton adaptation. Fait que c'est sûr que dans le fond, qu'est-ce qu'on en ressort? Bien, c'est que oui, il y a des personnes qui vont être plus prédisposées à avoir une meilleure transition saine. Puis ça, c'est en ayant comme justement un cheminement personnel qui est fait avant, qui est pendant, puis après, tu sais, tu te tiens actualisé sur comment tu te sens, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus adaptée? Savoir aussi ses habiletés personnelles, sa vision de l'immigration va amener une plus grande ouverture clairement sur les changements. T'sais, être aussi à l'affût de à la reconstruction de son identité personnelle, puis même occupationnelle, parce que là, c'est sûr, on a parlé moins d'occupation, mais c'est souvent la personne doit se trouver un nouveau métier. Est-ce que je peux faire la même chose avec les compétences que j'avais avant?
Mm-hmm.
Que clairement, au début, il va y avoir un déséquilibre, puis ça, c'est plus que normal, mais il faut juste faut pas être passif face à cette situation-là, puis être toujours comme un peu quand même en mode mécanisme de réaction, mais réaction fonctionnelle, puis qui te nuit pas, parce que des fois, il y a des mécanismes, des stratégies d'adaptation que tu peux faire, mais au fur du temps, vont être nuisibles parce que, bon, je sais pas, là, on va dire... Une personne qui se met à consommer soit de la drogue ou de l'alcool parce que c'est trop difficile, on s'entend que c'est une stratégie d'adaptation qui va être inefficace au final. Mais il faut juste être équilibré dans tout ce qu'on fait dans notre journée, dans notre quotidien, puis qu'être à l'alerte de nos signaux qu'on s'envoie.
Absolument, absolument. C'est tellement important pour pouvoir passer à travers le processus, puis finalement, se sentir intégré, là, je suis 100% d'accord.
Ouais, puis c'est ça, ouais. Au point de vue ergo, bien, tout ce qui est occupation, donc tout comment on structure notre journée, notre routine de vie, bien, ça va vraiment aider la personne à diminuer les sentiments d'isolement, ça va augmenter le bien-être, puis ça va réduire les émotions négatives, puis ça va t'engager dans ton quotidien, puis ça va donner vraiment un sens à la vie de tous les jours, dans le fond.
Ça me fait penser au confinement pandémie actuelle, tu sais, l'importance de la routine, puis d'avoir des objectifs dans nos journées, puis de les remplir d'affaires qui sont normales, puis ça me fait penser à ça, parce que c'est un peu la même chose, là, être isolé.
Je devrais que tu m'enlèves les mots de la bouche, dans le sens que l'ergo en confinement, présentement, ça ressemble quasiment avec les personnes immigrantes ou dans les expatriations, dans le sens que tu dois tout changer ta façon de faire dans un nouveau contexte, dans un environnement qui peut être que tu peux connaître parce que, dans le fond, c'est ta maison, peu importe. Mais c'est vraiment ce qu'on fait de notre journée, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait du bien, qui va avoir un impact.
Je pense que c'est ça qui fait qu'à quelque part, les expats, bon, tu sais, il y a eu des défis plus grands peut-être à cause du COVID-19, tout ça, mais il y a aussi eu quelque chose qui a été facilité. Tu sais, on vivait déjà d'une certaine façon dans ce genre de sortie de zone de confort-là, de manque de repères, de devoir se reconstruire une routine, etc. Donc, tu sais, je pense que c'était une longueur d'avance que les gens qui ont l'expérience d'expatriation avaient. Pas à tous les points de vue, là. Il y a d'autres choses, tu sais, comme le fait d'être loin de nos proches en cette période-là, tout ça, mais ce morceau-là, c'est un plus. Tu sais, je pense que dans l'apprentissage de l'expatriation, là, c'est un beau plus de ce qu'on apprend. Bien, écoute, je voulais te dire, Rachel, un super gros merci. C'est vraiment intéressant. Je conclue toujours mes entrevues avec les mêmes quatre questions. Alors, tu vas y passer, toi aussi. Alors, la première question que je te pose, c'est quoi ta meilleure série Netflix à vie, si tu en écoutes?
Oh mon Dieu, ça c'est une bonne question. Je pense que j'en ai vraiment, vraiment trop. Attends, excuse-moi, parce que j'ai vraiment trop. Je pourrais aller momentanément, je dirais. Mon Dieu, je suis tellement. Attends, j'essaie d'en trouver une rapidement, mais je dirais. Je vais dire Grey's Anatomy parce que c'est un grand classique, là,
Ouais.
effectivement. Ou sinon, comment. This Is Us. Très, très, très bon.
Ah ouais. Ah oui, excellent. OK, est-ce que tu écoutes des podcasts? Si oui, c'est quoi le dernier que tu as écouté?
Malheureusement, non. Je ne suis pas encore assez familière avec ça, mais il faudrait vraiment. Surtout en plus avec le confinement, je voulais m'y mettre, mais bon, c'est tard, j'ai recommencé. Finalement, je n'ai pas pris le temps de le faire.
C'est tellement un mot. En fait, je te dirais même après le confinement, là, tu sais, toutes les fois que tu es dans la voiture, dans le métro, dans la douche, en train de faire ta vaisselle, c'est tellement une façon facile d'apprendre, là, sans avoir besoin de tes mains ou de tes yeux.
Non.
Ouais, je te le conseille. Est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
Je dirais livre. Présentement, ben là, c'est sûr que c'est un peu embêtant, mais c'est vraiment tout ce qui concerne encore les transitions et l'adaptation occupationnelle pour mon essai. Sinon, je suis vraiment un peu fifille, là. Je lis du Nicholas Sparks, des trucs vraiment simples, là, qui nous amènent un peu ailleurs.
Super, mais ça te sert de pause du travail et tout ça. Donc, si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre un an dans la destination de ton choix, ce serait laquelle?
Ok, ça j'en ai beaucoup trop. Mais je dirais pour le moment, on dirait, ben, clairement, c'est dans justement nos projets. Probablement, ça serait l'Australie en PVT, là, qui serait potentiellement réaliste.
Bien, je te le souhaite fortement. Je ne peux pas te donner le billet d'avion, mais je te souhaite que ça se réalise, que ça se produise.
Probablement.
Ouais, ben oui, il faut les réaliser, ces désirs-là. Donc, je te remercie beaucoup, Rachel, d'avoir été là. C'était vraiment hyper intéressant et agréable. Et ben, on a eu plein d'informations sur la vision de cette personne-là qui arrive, mais au Québec. Donc, l'envers du décor, c'est génial. Un gros merci.
Bien, merci à toi de m'avoir proposé le podcast. Ça me fait plus que plaisir. Puis j'aime ça transmettre les informations qu'on a reçues, donc j'adore.
Merci. Restez avec nous pour découvrir la vie d'expatriés du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast. Donc, si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié de passer le mot, que vous laissiez un review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer, c'est expat_maman sur Instagram. Merci! Pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!